Bonjour et bienvenue en direct sur Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Vous nous suivez sur le 94.9 pour la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous suivent sur Internet. Nous sommes le 2 décembre. Déjà, je ne sais pas, cette année est passée à une vitesse, c'est effrayant. Et au niveau de l'éphéméride de ce 2 décembre, pas mal de choses d'un point de vue science et technique. Par exemple, le 2 décembre 1901, Gillette obtient le brevet de son rasoir jetable en 1901. En 1915, l'Académie royale des sciences de Prusse publie la théorie de la relativité générale d'Einstein. Il y a une semaine, on avait évoqué dans cet éphéméride qu'il présentait Einstein sa théorie. Et donc, une semaine après, l'Académie royale des sciences de Prusse publie cette théorie. En 1942, première réaction nucléaire en chaîne réalisée par Enrico Fermi. C'est à Chicago. En 1971, la sonde Mars 3 atteint la planète Mars. En 1982, Barney Clark devient le premier être humain à recevoir un cœur artificiel. C'était en 1982, il y a plus de 40 ans quand même. En 1993, il y a pile 30 ans, la NASA envoie la navette Endeavour pour réparer le télescope Hubble. Et enfin, en 1999, le magazine scientifique Nature annonce le décryptage inédit de la structure d'un chromosome humain 22 par une équipe britannique internationale de chercheurs. Nous allons donc vers une première cartographie du génome humain. C'était en 1999. Richard Minot est né un 2 décembre 1885. C'est un médecin et professeur américain. Il a partagé le prix Nobel de médecine, notamment pour les découvertes concernant la thérapie du foie dans des cas d'anémie. Ses recherches à Richard Minot ont apporté de nombreuses connaissances en hématologie en ce qui concerne les lymphomes, la leucémie, l'hémophilie, le scorbut également. Et donc il est né un 2 décembre 1885. Décès le 2 décembre 1969 de Didier Dora, pionnier de l'aviation française, figure marquante de la grande aventure de l'aéropostale. Il va inaugurer notamment pour le compte de la société des lignes aériennes Latécoère, et bien il va inaugurer la ligne postale régulière Toulouse-Rabat en 1919. Il est mort à Toulouse justement le 2 décembre 1969, Didier Dora. Biotine, c'est une émission d'actualité scientifique. On essaye un petit peu de nous informer de ce qui se passe dans les laboratoires du monde entier, essayer de comprendre la science qui avance, la technologie qui progresse. Et nous allons un petit peu feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique dans cette émission. Alors, il y a eu pas mal de choses qui ont encore été annoncées récemment et vous pouvez trouver pas mal d'articles dans différentes revues. Alors, ça peut être des revues papier, hein, Science et Vie, Science et Avenir, toutes ces revues vraiment intéressantes qui donnent un recul sur l'actualité scientifique et permet de mieux comprendre un petit peu ce monde qui avance. Et puis, vous avez des sites en ligne aussi très intéressants. Moi, je conseille notamment Futura Science, qui propose pas mal d'articles, je dirais assez courts, dans le sens où ça peut être à la fois facile à lire, dans le sens facile à comprendre, et ça nous permet comme ça d'avoir pas mal d'informations et de comprendre un petit peu le monde qui avance. Et notamment cet article de Futura Science qui présente ce nouveau traitement contre la drépanocytose et la bêta-thalassémie. Ce nouveau traitement a récemment été approuvé par l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé du Royaume-Uni pour les patients de 12 ans et plus. Cette autorisation, c'est le résultat d'une évaluation approfondie de la sécurité, de la qualité et de l'efficacité du traitement. Donc ça se passe un petit peu dans tous les pays du monde. Il y a toujours une agence qui va donner un petit peu son accord. Et là, c'est un médicament qui s'appelle Casgevy. Et c'est le premier médicament à utiliser une méthode qu'on appelle la méthode CRISPR. C'est une méthode qui permet d'éditer de façon génétique ce médicament. Il a été récompensé, hein, cet outil, cette méthode, récompensé par un prix Nobel en 2020. On en avait parlé donc il y a 3 ans. Et ce premier médicament représente une révolution dans la prise en charge de ces maladies génétiques. La drépanocytose, la bêta-thalassémie sont causées par des erreurs génétiques dans la production de l'hémoglobine. Et donc ces maladies sont particulièrement répandues Chez les individus d'origine africaine, caribéenne, méditerranéenne, sud-asiatique et moyenne-orientale, la drépanocytose se manifeste par des crises de douleur intense, des infections graves et une anémie. Et la bêta-thalassémie entraîne une anémie sévère nécessitant les transfusions régulières. Et donc ce médicament Casgevy agit en modifiant le gène défectueux dans les cellules souches de la moelle osseuse du patient. Ça, c'est totalement révolutionnaire. Ces cellules souches sont prélevées, génétiquement modifiées, réinjectées dans le patient. Et jusqu'à présent, la greffe de moelle osseuse était la seule solution pour ces patients. Et il y avait un fort risque de rejet. Et durant les essais, eh bien, ce médicament a démontré sa capacité à restaurer la production d'hémoglobine de façon normale, de façon saine. Dans l'essai pour la drépanocytose, 97% des patients traités n'ont pas eu de crise de douleur sévère pendant au moins 12 mois. Et dans le cas de la bêta-thalassémie, on est à 93% des patients qui n'ont pas eu besoin de transfusion sanguine pendant au moins un an après le traitement. Donc les résultats sont vraiment faramineux et c'est à la fois révolutionnaire parce que là, on est sur une technologie de production génétique assez inédite dans le cas de la production de médicaments. Et du coup, cette annonce est assez pionnière, en fait. Et il faudra marquer d'une pierre blanche, justement, cette annonce de ce premier médicament utilisant cette technologie CRISPR qui vient d'être donc autorisée au Royaume-Uni. Les effets secondaires étaient similaires à ceux des greffes de cellules souches autologue, c'est-à-dire que ça inclut la nausée et la fatigue, mais il y a vraiment un résultat qui dépasse les 90%, voire 93%. Et là, on est vraiment sur des résultats assez intéressants et à faire à suivre. Donc, comme quoi, parfois, la science... je sais pas, des fois, dans cette émission, j'ai l'impression d'être le porteur de mauvaises nouvelles, mais bon, c'est pas toujours le cas. En France, Xavier Niel, qui est le patron d'Iliad, alors Iliad, c'est notamment Free. Xavier Niel s'est entouré de personnalités de la high-tech, comme Rodolphe Saadé et Eric Schmidt, pour présenter il y a quelques jours son laboratoire de recherche qui s'appelle QTIE. L'idée consiste à créer en fait un pôle d'excellence autour de l'intelligence artificielle open source en Europe et plus précisément en France. Donc l'idée, c'est de pouvoir contrer les intelligences artificielles américaines d'OpenAI, Google, Meta. Ça fait maintenant plusieurs mois que Xavier Niel avait déjà annoncé sa volonté d'investir considérablement dans le domaine des intelligences artificielles. Et tout cela est prévu pour être développé en open source et sans profit, nous dit-on. C'est assez inédit. Quand on se souvient ce qui s'est passé la semaine dernière, on en avait parlé dans l'émission de la semaine dernière, de ce qui s'est passé avec Sam Altman, qui avait été viré puis réintégré à OpenAI. Et on voyait très bien justement l'optique nouvelle, ou en tout cas la nouvelle piste qui est lancée maintenant pour tous ces géants de l'intelligence artificielle. En clair, c'est aussi derrière avoir du profit, tout simplement. Et bien là, on est sur, en tout cas, c'est ce qui est annoncé, un développement en open source et sans profit. Alors, l'objectif principal de ce laboratoire de recherche consiste à éviter la fuite des talents aux États-Unis pour développer de nouveaux modèles d'intelligence artificielle. Alors, pour le moment, il y a un capital de 300 millions d'euros qui a été rassemblé pour poser les bases et débuter le recrutement. Et l'initiative a été félicitée par le gouvernement et le président de la République. Si cette volonté de créer une intelligence artificielle européenne est louable, la question c'est, est-ce que c'est pas déjà trop tard, notamment pour marquer la différence avec les géants américains. On se souvient également de l'expérience un peu poussive menée avec le moteur de recherche français Quant, qui cherchait à concurrencer Google notamment et Bing. Ça a été un petit peu contrarié. Est-ce qu'on est dans une même démarche? L'avenir nous le dira tout simplement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans une volonté française et européenne de vouloir rivaliser avec les Américains dans le cas de l'intelligence artificielle. Écoutez, tant mieux, on suivra un petit peu cette histoire, bien sûr. Au niveau de l'espace, il y a eu deux informations qui étaient intéressantes à évoquer. Alors, le premier, je recherche l'article. Le premier évoquait ce qui s'était passé l'année dernière, en mars 2022. Il y avait quelque chose qui avait heurté la face cachée de la Lune. Les chercheurs l'avaient prévu, les restes d'une fusée qu'ils suivaient depuis des semaines. C'était prévu tout ça, et donc du coup, le fait que cette fusée se soit écrasée sur la face cachée de la Lune était... On s'attendait à ça, et quelque part, il n'y a pas de surprise, et on peut se dire que l'affaire est classée. Eh bien, en fait, pas tout à fait, parce qu'on s'est rendu compte que l'impact a été étonnamment creusé, non seulement sur un, mais il y a eu deux cratères qui ont été produits par cet écrasement, et les chercheurs se sont alors demandé comment c'était possible. Alors aujourd'hui, il y a des ingénieurs de l'Université de l'Arizona qui confirment dans une revue qui s'appelle Planetary Science Journal, que c'est bien un propulseur de la fusée de la mission chinoise, une fusée lancée en 2014 et qui s'est écrasée sur la Lune il y a donc un peu plus d'un an et demi. Et selon les courbes de lumière que les chercheurs utilisent pour caractériser les objets flottants, eh bien, on s'est rendu compte que cet objet était équilibré et c'était un peu étonnant. Alors même qu'en tant que corps de fusée, il aurait dû basculer du côté de ses moteurs, parce que ses moteurs pèsent plus de 1000 kg. Et donc du coup, on se dit, mais c'est un peu étonnant, c'est un peu bizarre, pourquoi cet objet qui devait s'écraser en ayant, comment dire, une trajectoire et enfin, l'objet aurait dû un petit peu basculer pendant cette course vers la face cachée de la Lune. Pourquoi il était équilibré? La découverte, finalement, elle est assez cohérente avec la formation de ces deux cratères sur la Lune. Deux cratères espacés l'un et l'autre d'environ 30 mètres. Et l'objet est tombé presque tout droit au sol. Et donc, pour en arriver là, il faut un objet avec deux masses à peu près équivalentes, éloignées l'une de l'autre. C'est ce qu'explique Tanner Campbell, l'auteur principal de ces travaux, dans un communiqué qui a été diffusé par l'Université de l'Arizona. Et donc, du coup, on se rend compte que la fusée chinoise, qui s'est donc crachée sur la face cachée de la Lune, portait une charge mystérieuse. Et donc, on n'était pas au courant. On essaie d'en savoir un petit peu plus. On pense qu'on ne saura probablement jamais ce qui a pu équilibrer cet objet. Qu'est-ce qu'il y avait? On n'en sait rien, mais en tout cas, c'était quelque chose... L'atterrissage n'était pas normal. Et les Américains, bien sûr, veulent essayer d'en savoir un petit peu plus parce que ça les perturbe un peu. Ils ont raison, de toute façon, dans cette course à l'espace, on ne saura pas tout, hein, parce qu'il y a, bien sûr, de l'espionnage dans ces cas-là, un petit peu d'espionnage industriel, on va dire. Et donc, du coup, chaque État essaye de conserver le maximum ses informations, et donc là, on n'en savait pas beaucoup. Enfin, toujours au niveau de l'espace, et cette fois au niveau de la NASA, on apprend que la NASA ne peut plus communiquer avec l'ensemble de ses robots sur Mars depuis le 11 novembre. La faute à un phénomène qui est bien connu, hein, c'est une conjonction de la planète avec le Soleil, qui, vu de la Terre, intervient environ tous les 2 ans. Durant cette période, la Terre et Mars sont alignés de part et d'autre du Soleil, et du fait, les éjections de masse qui risquent de corrompre les signaux radio entre les deux mondes peuvent avoir lieu. C'est pourquoi l'agence spatiale américaine préfère éviter de communiquer avec ses engins présents sur Mars pendant toute cette période. Et pour une fois, les robots sont donc livrés à eux-mêmes. Hein. Ils vont rester un temps silencieux. Ils vont continuer néanmoins à enregistrer des informations qui vont être précieuses. Simplement, eh bien, ces informations seront transmises vers la Terre ultérieurement. Alors apparemment, ça aurait dû reprendre depuis quelques jours, hein, ça a dû pouvoir se refaire, mais il y a eu une phase pendant au moins 2 à 3 semaines où il y a eu une coupure de contact entre la NASA et les différentes missions sur Mars. Hein. Pour rappel, la NASA, elle possède de nombreux robots actuellement en mission sur Mars, à commencer par le rover Curiosity qui est arrivé en 2012 et qui vient de fêter son 4 millième jour sur Mars. 4000 jours qu'il est sur Mars, petit bonhomme. Et puis, il y a aussi son presque jumeau Perseverance, qui a débarqué en 2021 avec notamment le prodigieux hélicoptère Ingenuity, on en avait parlé dans cette émission. Ingenuity, il a déjà 66 vols expérimentaux réussis, c'est une vraie prouesse technologique. Et puis en orbite, il y a bien sûr les sondes Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey et Maven qui continuent de scruter la planète rouge. Mais donc tout s'est bloqué, enfin au niveau des communications, c'est bloqué pendant au moins 15 jours, ça reprend bien sûr, mais c'est intéressant, enfin, tous ces robots sont restés seuls, autonomes, sur Mars, et ça aussi bien sûr c'est étudié par la NASA bien évidemment, pour voir un petit peu comment ça se fera dans un futur qui va être de plus en plus proche. Ça, je vous l'ai dit, cette décennie est totalement fascinante quand on s'intéresse à l'espace. On va écouter un petit titre et on se retrouve juste après. David Walters avec Night in Madinina. C'était sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Et vous avez bien raison, on feuillette comme ça un petit peu la revue de presse de l'actualité scientifique. Alors j'ai oublié de parler il y a quelques semaines de cette communication de l'Agence nationale de médicaments et des produits de santé. Hein. On sait qu'on est en pleine période de rhume ou autre. Et l'ANSM, donc cette agence, a dans un communiqué qui est donc paru début novembre, il me semble, mise en garde contre certains traitements. Hein, l'institution s'associe au Collège de la médecine générale, au Conseil national professionnel d'ORL, ainsi qu'à l'Ordre national des médecins et au syndicat de pharmaciens d'officine, afin donc d'alerter sur les médicaments qu'on appelle les vasoconstricteurs par voie orale, c'est-à-dire ces gélules que l'on prend parfois pour se déboucher et le nez. Alors, il y a quelques marques que l'on connaît. Actifed Rhume, Dolly Rhume, Humex Rhume ou encore le Ridnaville Rhume. Vous en avez peut-être encore dans vos placards. Eh bien, mieux vaut s'en débarrasser et pour cause. Des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux peuvent se produire après l'ingestion de ces médicaments. Alors, si le risque est très faible, le principal problème reste que ces effets indésirables très graves peuvent se produire quelle que soit la dose et la durée du traitement, l'âge, les facteurs de risque de la personne également. Et donc depuis février dernier, ces médicaments sont en cours de réévaluation par le comité de pharmacovigilance de l'Agence européenne des médicaments. Et donc en attendant les résultats, eh bien, l'Agence nationale des médicaments et des produits de santé conseille donc de prendre son mal en patience, et ce d'autant que les rhumes guérissent généralement d'eux-mêmes au bout de 7 à 10 jours. Pour se décongestionner sans danger, le mieux reste encore de s'hydrater, d'avoir recours au sérum physiologique et au spray d'eau, par exemple d'eau de mer ou d'eau thermale, qui sont eux sans danger, nous dit-on. Donc voilà, soyez vigilants avec ces, pardon, ces médicaments qu'on utilise. On a parlé de Mars, on va en reparler encore. Mais avant, on va passer par les Andes. Les Andes, c'est là où il y a quelques-uns des sommets les plus hauts du monde. Il y a beaucoup de volcans et la température ne dépasse jamais 0 degré hein, sur, dans de nombreux endroits. Ce sont donc des milieux froids et secs, des milieux désertiques où le niveau d'oxygène est à peine plus de la moitié de celui que nous connaissons sur, bah, sur nos, comment dire, nos latitudes à nous. Alors quand les archéologues y ont trouvé des cadavres de souris, ils ont d'abord pensé que les pauvres bêtes avaient été embarquées dans les bagages de quelques Incas qui étaient en route pour un site sacré, parce qu'aucun mammifère ne peut survivre dans ces conditions. C'est ce que pensaient les chercheurs dans les années à peu près 1970-1980 et jusqu'à très récemment, précisément jusqu'en 2020. C'est à ce moment-là qu'un professeur de biologie de l'université du Nebraska a reporté avoir lui aussi observé des souris dans la région. C'était au sommet du Lulia Caico, je vais y arriver. C'est le deuxième plus haut volcan actif au monde, 6700 mètres d'altitude sur la frontière entre le Chili et l'Argentine. Et donc ce professeur Jay Storrs est tombé sur d'étonnantes souris, des souris de Patagonie, mais surtout des souris vivantes. Hein. Depuis, les chercheurs ont trouvé d'autres souris tout aussi vivantes, mais aussi quelques momies de souris, et ce, sur au moins trois sommets des Andes qui culminent chacun à plus de 6000 mètres d'altitude. Ils présentent leurs travaux dans la revue Current Biology. Les analyses au carbone 14 montrent que plusieurs des momies de souris retrouvées sur les sommets des Andes datent d'après 1955. Les autres ont péri tout au plus il y a 350 ans, soit bien après la chute du dernier empire Inca, et ces derniers n'auraient donc rien à voir avec la présence de ces souris à ces altitudes. Les analyses ADN, quant à elles, montrent que les souris trouvées là sont de la même famille que celles qui vivent sur les flancs ou à la base des volcans. Des souris seraient donc alpinistes, hein, c'est ce qu'on peut se dire. Alors, peut-être pas, les chercheurs ont observé autant de souris femelles que de souris mâles, et quelques terriers également. Ça laisse imaginer que ces souris ont pu s'établir sur ces sommets et vivre dans des conditions qui ressemblent plus ou moins à ce qui se passe sur la planète Mars. C'est pour ça qu'on reparle de Mars dans cet article. Les chercheurs soulignent, il est tout simplement ahurissant que n'importe quel type d'animal, sans parler d'un mammifère à sang chaud, puisse survivre et fonctionner dans cet environnement. Alors la question qui se pose désormais, c'est comment ces souris qui ne pèsent qu'à peine plus de 50 grammes peut-elles vivre dans des conditions aussi extrêmes? Et pour le découvrir, les chercheurs mènent actuellement des expériences d'acclimatation à différentes altitudes. Ils espèrent donc identifier les adaptations physiologiques qui aident ces souris à faire face. Alors c'est assez ahurissant, hein, bien sûr, les scientifiques se demandent aussi ce qui pousse ces souris à monter en altitude. Alors peut-être l'envie d'échapper à certains prédateurs, parce que dans ces conditions, les prédateurs se font bien sûr plus rares, mais les autres risques, à savoir le manque d'eau, le manque de nourriture, la menace du froid, bah, ça devient tel que la question du bénéfice réel reste également entière. Donc on n'a pas la réponse, mais en tout cas, on découvre là, ces souris qui seraient peut-être quelque part capable de survivre sur Mars. À voir, bien sûr, mais c'est une découverte assez récente, assez étonnante, bien sûr. Autre découverte concernant le règne animal par des scientifiques, ça concerne l'étoile de mer. Alors, on a tous vu des étoiles de mer et on se dit que c'est quand même un bien curieux animal marin parce que les étoiles de mer, elles ont 5 bras, parfois plus, mais on s'est toujours demandé où se trouvait la tête. Eh bien, les scientifiques les plus pointus s'y sont cassés les dents pendant longtemps. Ils ont essayé de chercher, de comprendre. Eh bien, aujourd'hui, il y a des chercheurs de l'université de Stanford aux États-Unis qui apportent une réponse beaucoup plus compliquée que prévue. Et c'est ce qui est détaillé dans un article paru dans la revue Nature. Ce que les chercheurs savaient, c'est qu'il existe des gènes qui sont les mêmes pour tous les groupes d'animaux et qui codent les tissus qui forment les régions différentes du corps. Alors, ils ont ignoré l'anatomie particulière de l'étoile de mer pour se concentrer sur ces gènes. Et à l'aide d'outils génétiques et moléculaires innovants, ils ont cartographié en 3 dimensions les différentes régions du corps de cette étoile de mer. Et ils ont découvert, en fait, que la tête de l'étoile de mer ne se trouve pas en un seul et unique endroit parce que sa tête est répartie entre le centre de l'étoile de mer et le centre de chacun de ses membres. Et donc, cette découverte a un grand intérêt scientifique parce que les étoiles de mer, elles font partie du groupe des échinodermes, un groupe auquel nous sommes étroitement liés alors même que notre cycle de vie et notre anatomie sont très différents. Les étoiles de mer commencent leur vie sous forme d'œufs fécondés. Elles flottent ainsi dans les océans pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Et c'est ensuite que se produit l'impensable. Elles s'installent au fond pour passer d'un plan corporel bilatéral, ce qui ressemble un peu au nôtre, à un plan corporel qu'on va appeler pentaradial. Pentin, ça veut dire 5, donc on est bien sur 5 branches, d'où cette étoile à 5 branches. Les scientifiques peinaient jusqu'ici à expliquer cette évolution, mais les travaux des chercheurs de l'université de Stanford ouvrent donc une piste de réflexion parce qu'ils montrent aussi que les étoiles de mer semblent totalement dépourvues de troncs. Et c'est peut-être ainsi qu'elles ont évolué à partir d'ancêtres bilatéraux en se transformant donc en têtes sans tronc qui vont ramper au fond des océans. C'est donc une manière beaucoup plus complexe qu'on l'avait un petit peu envisagé au départ. Et donc la découverte des scientifiques qui sont un petit peu surpris par leur propre découverte, cette tête des étoiles de mer qui est donc éclaté le centre et les 5 branches et qu'il n'y aurait pas de tronc apparemment. Une découverte qui peut-être peut expliquer aussi un petit peu l'évolution du règne animal. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce genre de découverte, c'est qu'on essaye de comprendre un petit peu l'évolution parce qu'il manque encore beaucoup d'informations, il manque encore pas mal de découvertes. Et il y a des cases blanches qu'il va falloir remplir et là par les étoiles de mer on a pas mal d'informations assez intéressante sur ces fameux échinodermes. Les échinodermes, ce sont donc tous ces êtres essentiellement marins qui sont sur une symétrie de 5 branches. Il y a les oursins, par exemple, qui sont aussi des échinodermes et le plus connu. Et ça nous fait penser un petit peu à nos vacances, les étoiles de mer. On écoute Unknown Mortal Orchestra sur l'antenne de Graphite, qui a aussi un petit peu de musique dans Biotine. Unknown Mortal Orchestra avec Guilty Pleasures. C'était sur l'antenne de Graphite. On assiste à une baisse significative du nombre de spermatozoïdes depuis 50 ans dans les pays industrialisés. Environ un couple sur six souffre d'infertilité dans le monde. Et si à peu près la moitié des causes cliniques de l'infertilité sont imputables à l'homme, on ne sait pas avec précision d'où vient la mauvaise qualité du sperme. Une baisse significative du nombre de spermatozoïdes est observée, donc passant d'une moyenne de 99 à 47 millions de spermatozoïdes par millilitre. Il y a divers facteurs environnementaux et comportementaux qui constituent une piste intéressante pour expliquer cette baisse. Au niveau environnemental, ça va être les perturbateurs endocriniens, les pesticides, les radiations, et puis au niveau comportemental, bien sûr, la nourriture, l'alcool, le stress, le tabac. Eh bien, on apprend que le téléphone portable pourrait être impliqué. Il y a une nouvelle étude publiée dans Fertility and Sterility qui montre qu'une utilisation intensive du téléphone portable est associée à une baisse de concentration des spermatozoïdes. Et contrairement à ce qui a été trouvé précédemment, leur morphologie et leur motilité ne sont pas affectées. Selon l'équipe de recherche suisse, il s'agit de la plus grande étude transversale qui a été mise en place. Selon cette équipe, il y a près de 3000 hommes suisses qui ont participé à cette étude. C'est ça qui est intéressant. 3000, c'est quand même pas mal. Et notamment, ça a été mis en place entre 2005 et 2018. Donc on est bien sur une phase assez longue de cette étude. Les participants ont donc fourni un échantillon de sperme. Ils ont rempli un questionnaire sur la santé et le mode de vie, y compris les nombres d'heures passées à utiliser leur téléphone portable et l'endroit où ils le plaçaient quand ils ne l'utilisaient pas. Et donc, les hommes qui utilisaient leur téléphone plus de 20 fois par jour, on s'est rendu compte qu'il y avait une diminution de 21% du nombre de spermatozoïdes par rapport aux utilisateurs plutôt rares du téléphone. Et bonne nouvelle, on s'est rendu compte que cette association inverse s'est en fait atténuée avec le temps, même si on observe plutôt une baisse globale du nombre de spermatozoïdes chez les hommes. Et cette tendance, elle correspond au passage de la 2G à la 3G, puis de la 3G à la 4G, qui a entraîné une réduction de la puissance d'émission des téléphones. Donc plus ça va, plus les téléphones émettent moins de radiation, et donc du coup, il y aurait un impact négatif, ce qui montre que certes on assiste à une baisse, mais une baisse atténuée. C'est ce qu'explique dans un communiqué l'université de Genève et notamment le professeur Martin Rosli, qui est le principal auteur de cette étude. Et donc on estime que les hommes ne devraient pas modifier radicalement leur utilisation du téléphone portable jusqu'à ce que des données supplémentaires soient disponibles, parce qu'on essaye d'en savoir un petit peu plus. Les hommes qui souhaitent avoir un enfant ou améliorer la santé de leur spermatozoïde devraient faire de l'exercice, avoir une alimentation équilibrée, maintenir un poids santé, éviter de fumer, limiter leur consommation d'alcool s'ils ont des difficultés à concevoir un enfant. Les chercheurs avouent eux-mêmes que leur étude présente des limites, comme le fait que les fréquences d'utilisation des téléphones portables soient un petit peu autodéclaratives, c'est-à-dire que finalement, on se base uniquement dans cette étude sur ce qui a été déclaré par les personnes qui ont participé à cette recherche. Ils soulignent, les chercheurs également, que l'association trouvée ne prouve pas de lien de cause à effet. D'autres facteurs pourraient entrer en ligne de compte, notamment l'anxiété, qui est suspecté d'être associé à une utilisation accrue du téléphone portable, nous dit-on. Une autre étude qui mesurera les ondes électromagnétiques et la manière dont les hommes utilisent leur téléphone est actuellement en cours, parce que les ondes émises par les portables ont-elles un effet direct ou indirect ? Engendrent-elles une augmentation thermique toxique au niveau des testicules ? Affecte-t-elle la régulation hormonale de la production des spermatozoïdes ? Tout ça reste à découvrir. Donc, on a des suppositions, on a des pistes de recherche qui vont être approfondies. Mais voilà, peut-être qu'une utilisation accrue du téléphone portable pourrait être associée à une diminution du nombre de spermatozoïdes. Nous apprendons, écoutez, affaire à suivre, bien évidemment. Toujours au niveau médecine, il y a une société de biotechnologie axée sur le développement de vaccins qui a récemment annoncé des résultats prometteurs pour l'un de ses vaccins contre le virus du chikungunya. Ces résultats proviennent de la phase 3 de leur étude qui est concentrée sur les adolescents et qui s'ajoute aussi à des données de sécurité initiales qui ont été publiées en août dernier. Le projet qui est financé notamment par la Coalition pour les innovations en préparation aux épidémies est soutenu par le programme Horizon de l'Union européenne et mené en collaboration avec l'Institut Butantan de Brésil. Et cette étude cible les adolescents et vise à étendre l'autorisation d'utilisation du vaccin à ce groupe d'âge. Et cette démarche, elle fait suite en fait à l'approbation récente du vaccin pour les adultes. Et ça, c'était aux États-Unis. Une approbation qui s'appuie sur des études réalisées sur plus de 4000 adultes. Et les résultats de cette étude ont été publiés l'année dernière et cette année, qui confirment l'efficacité et la sécurité du vaccin. Ces données ainsi que les résultats positifs sur la consistance des lots et la persistance des anticorps à 12 mois ont été capitaux pour obtenir l'approbation réglementaire. Donc il y aurait des résultats prometteurs pour ce vaccin anti-chikungunya et c'est là aussi une découverte assez intéressante. Enfin, il y aurait un test génétique qui pourrait identifier l'antidépresseur le plus efficace pour chaque patient. On sait qu'il y a un nombre considérable d'antidépresseurs qui sont disponibles sur le marché. Plus de la moitié des patients souffrant d'un trouble dépressif majeur ne répondent pas bien à l'antidépresseur qui leur a été prescrit en première intention et rapportent des effets indésirables. Il y a des études précédentes qui avaient montré que les facteurs génétiques sont impliqués dans la variation de la réponse des patients à ces traitements. Et donc, il y a une nouvelle étude, cette fois de l'Université de la Colombie-Britannique, c'est au Canada, qui montre qu'un test pharmacogénomique, c'est un type un peu particulier de test génétique en clair, eh bien, ce test permettrait de déterminer le meilleur antidépresseur pour les patients qui souffrent de dépression modérée à sévère, ce qui améliorerait donc leur qualité de vie et qui pourrait générer des économies majeures pour le système de santé. Et donc ces tests pharmacogénomiques identifient les variations dans les gènes qui influencent le métabolisme des antidépresseurs. Ils peuvent améliorer l'efficacité, ils peuvent réduire les effets indésirables de la pharmacothérapie pour les troubles dépressifs majeurs, c'est ce que notent les auteurs dans la revue The Canadian Medical Association Journal. Alors pour l'étude, les chercheurs ont développé un modèle comparant le parcours de soins de près de 200 000 personnes, des adultes. Donc là, on est vraiment sur un nombre assez conséquent de personnes qui ont participé à cette étude. Ces personnes souffraient d'un trouble dépressif majeur et on l'a fait, cette étude, avec ou sans ce test pharmacogénomique. Et après 20 ans de suivi, le modèle a montré que ce type de test permettrait de réduire de 37% le nombre de patients qui résistent aux antidépresseurs. C'est-à-dire que la dépression ne s'améliore pas malgré l'essai de plusieurs types de traitements. Et donc, en ciblant un meilleur traitement, les tests pharmacogénomiques permettraient également aux patients d'avoir moins de symptômes de dépression, ce qui se traduirait par une réduction anticipée de pas moins de 2000 décès et de plus de 20 000 admissions à l'hôpital sur ces 20 ans d'études. Donc, on est sur une piste assez intéressante là également. Et ce qui est notamment intéressant dans cette étude, c'est qu'on est, vous l'avez vu, sur des échelles de temps et sur des échantillons de personnes concernées assez conséquentes, ce qui permet quelque part d'apporter un petit peu un crédit à cette recherche qui a été annoncée. On continue à parcourir l'actualité scientifique de cette émission. On écoute un dernier titre et on terminera cette émission avec la suite de la revue de presse de l'actualité scientifique. On écoute REM, mon Dieu, ça me rappelle des bons souvenirs. The One I Love, RM, sur l'antenne de Graphite. Allez, deux, voire trois, si vous êtes gentil, petite dernière brève que nous allons développer dans cette émission avant de nous quitter. On va parler de robotique, avec l'idée d'effectuer, bien sûr, des tâches répétitives, des tâches laborieuses, et notamment des tâches d'assemblage de voitures, notamment dans une usine pilote, c'est Hyundai. Ou Hyundai, je ne sais plus, avant je disais toujours Hyundai, en fait je me suis rendu compte à la pub, il disait Hyundai. Alors on va dire Hyundai, qui a mis en place une armée de 200 robots, et à eux seuls, ils réalisent plus de 60% des travaux, pour laisser le temps aux employés de se concentrer sur des missions plus créatives et plus productives. Ça a été annoncé le 20 novembre dernier. Il y a le centre d'innovation de Hyundai à Singapour, qui est une gigantesque usine... Ça a été annoncé le 20 novembre dernier. Il y a eu le centre d'innovation de Hyundai à Singapour, qui est donc une gigantesque usine de 7 étages. Et cette usine pilote se trouve à Singapour et elle est désormais pleinement opérationnelle. Je vais y arriver. Les humains et les robots collaborent grâce à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. Donc les employés, ils peuvent simuler des tâches pendant que les robots déplacent, inspectent et assemblent les différents éléments du véhicule. Et donc ce centre d'innovation devrait produire jusqu'à 30 000 véhicules électriques par an. Et il y a aussi la production d'une déclinaison de robots taxis autonomes. Et donc dès l'année prochaine, l'usine produira également l'Ioniq 6, donc ça va être un véhicule électrique encore beaucoup plus performant. Et si l'expérience est satisfaisante, Hyundai la répliquera dans ses autres usines. Et de façon surprenante, le bâtiment ne sert pas qu'à l'assemblage des véhicules, parce que sur le toit de ce bâtiment se trouve une piste d'essai. Je vais pas y arriver. Je suis désolé, Pierre, on ne peut pas s'arrêter. Sur le toit de cette usine se trouve une piste d'essai de 600 mètres de long. Et il y a aussi une ferme intelligente qui est également assistée par des robots. Il y a 9 types de cultures qui sont pratiquées. Et si la présence de cette ferme peut paraître étrange, elle entre dans le cadre d'un programme mené par le gouvernement de Singapour et donc dans la région. On se rend compte qu'il y a seulement 1% des terres qui sont exploitables pour l'agriculture, notamment parce que la terre n'est pas géniale. On est plutôt sur une géologie un peu rocheuse et il est nécessaire d'importer 90% de la nourriture. Et donc ce type de culture va permettre de renforcer ce qu'on appelle l'autosuffisance locale, c'est-à-dire que ça va permettre, je ne vais jamais y arriver, ça va permettre de pouvoir produire au niveau localement quelques fruits et légumes. Et pour le gouvernement, l'objectif est d'atteindre un rendement de 30% d'ici la fin de la décennie. Alors une partie de la production agricole de Hyundai est destinée aux communautés locales et servira à alimenter un restaurant interne au bâtiment. Mais donc il y a à la fois des voitures et des salades qui sont produites par une armée de 200... Oh, c'est pas vrai, 200 robots à Singapour. Voilà, je suis désolé, c'est pénible. Hein. J'espère que vous avez compris. Bien. Alors, bon, on va peut-être bientôt finir, hein, parce que ça devient compliqué cette émission. Et on va aller cette fois avec Google qui est... Là, on est au niveau de l'intelligence artificielle. Hein. Depuis quelques semaines, notamment depuis la semaine dernière, on parle pas mal d'intelligence artificielle. Et là, on va continuer avec Google DeepMind et tout ce qui va être prévision météo. On sait, enfin, on constate... On considère que les prévisions météo ne sont pas toujours fiables, surtout à moyen terme. Eh bien, les intelligences artificielles devraient pouvoir contribuer à nous faire changer d'avis. Selon un article qui a été publié récemment dans la revue Science, il y a une équipe de Google DeepMind qui a mis au point un nouveau programme de prévision climatique sur 10 jours. Et ce programme s'appelle GraphCast. Et ce programme est alimenté par une intelligence artificielle. En fait, GraphCast surpasse pratiquement toujours les outils de prévision existants. Et mieux encore, cette intelligence artificielle n'utilise qu'une fraction de la puissance de calcul du système actuel. Ce qui fait la différence, c'est que cette intelligence artificielle de GraphCast a ingurgité des décennies d'informations météorologiques, ainsi qu'une quarantaine d'années de données issues des satellites, des stations météo et des radars. Dans les procédés actuels, ils fonctionnent un peu différemment parce qu'avec une puissance de calcul colossale qui nécessite des centaines de machines sur un supercalculateur, les prévisions à 10 jours sont établies avec des bases de données assez gigantesques. Et elles contiennent des données qui concernent la thermodynamique, la dynamique des fluides et les autres critères qui vont être liés aux conditions atmosphériques. Et il ne faut qu'une seule des machines du même type de supercalculateur pour que GraphCast délivre en moins d'une minute une prévision à moyen terme très précise. Et contrairement au modèle actuel, en limitant la portée de l'analyse à la partie la plus basse de l'atmosphère où se trouvent les événements météorologiques les plus visibles, eh bien GraphCast s'est même avéré plus précis dans presque 100% des tests, 99,7 précisément. Et depuis ses débuts en septembre auprès du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, eh bien GraphCast a déjà pu prédire 9 jours avant la trajectoire précise de l'ouragan Lee qui a impacté la Nouvelle-Écosse, soit 3 jours de moins que le système actuel de prévision. GraphCast est issu de l'open source et son expérimentation va se poursuivre, notamment pour pouvoir apporter aux services et au système actuel un petit peu plus de précision et un petit peu plus d'aide. Mais là encore, voilà une nouvelle avancée au niveau de l'intelligence artificielle. Et là, c'est Google DeepMind qui sidère un petit peu en surpassant tous les modèles météorologiques actuels en précision. Affaire à suivre, bien sûr. Allez, bah, c'est un vilain temps qui m'a permis de m'enrhumer. Je suis très content. Je suis désolé. C'est la fin de cette émission. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. À bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.